Je pense que j'étais comme vous tous ces derniers temps quand même touché, je n'irai pas jusqu'à dire affecté, mais par les avalanches de mauvaises nouvelles qui arrivent de partout au niveau de ce qui se vit dans le monde où on vit. Hein. On se dit, mais quand même, c'est incroyable, quoi. Ça va mal là, ça va mal là, ça va pas bien là, ça va encore plus mal là-bas, c'est compliqué là-bas. Et puis, ben, c'est comme ça, du macro au micro. Hein, j'ai appelé ma maman dans le sud, et puis elle me dit, ah ben tu sais, lui, il a un cancer, et puis ah, lui, ça va pas, et puis si, il y a... Hein, c'est... Des fois, c'est pas simple. Et ce petit bout d'un texte qu'on va lire en entier, hein, dans Romains 4, qui fait référence à Abraham, mais comme notre modèle, le père des croyants, hein, cette très très belle phrase, « espérant contre toute espérance ». C'est beau et c'est un peu étrange. Hein, « espérant contre toute espérance ». Ça veut dire quoi? Alors je vous lis d'abord le texte dans Romains et puis on ira faire un tour dans la vie d'Abraham. Donc c'est Paul qui parle et qui est en train d'expliquer le chemin de la foi et de la grâce, hein, Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, c'est-à-dire le peuple juif, hein, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre père à tous, et nous tous ici, et beaucoup d'autres bien sûr. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Autre phrase bizarre. Les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et c'est là, au verset 18, qu'on a notre expression. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela a été mis sur son compte comme une justice. Quand on lit ce texte-là, on se dit « Waouh, Abraham, ça c'est quelqu'un, hein ? » Il n'a pas douté. 100 ans, sa femme en a 90, ça fait un certain nombre de temps qu'ils sont mariés, une quarantaine d'années ou plus, je ne sais plus. On peut imaginer qu'ils ont essayé encore et encore, pas d'enfant. Hein. Et là, il dit « espérant contre toute espérance, sans faiblir, il ne doute à point, etc. etc. » Je pense que vous avez tous ici lu souvent la Genèse. C'est pas comme ça que moi j'aurais écrit l'histoire. Hein ? Abraham, il n'a pas tout à fait 90 ans. Et là, il y a première fois l'ange de l'Éternel qui vient le voir et qui lui dit « Je vais faire de toi une grande nation ». Et puis là, Abraham, il est avec son premier plan B. « J'ai pas d'enfant, j'ai un neveu ou un petit-neveu, là, voilà, on va faire quelque chose avec. Hein, ça sera lui mon héritier. » Dieu dit « Non, je vais faire de toi une grande nation. Oui, ben, mon petit-neveu, il aura des enfants, et ça fera. Tu auras un enfant. Ah, un enfant de toi, ok. » Et puis, ben là, première étape dans ce long parcours qui va durer plus de 10 ans, avant que Isaac soit là, soit né. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent, ils discutent avec son épouse, et ils font ce qui culturellement se faisait à l'époque. Des fois, on est choqué de nos jours en disant « Oh !» Mais vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ils utilisent une femme porteuse, une mère porteuse, pardon. Sauf qu'en plus, elle était esclave et qu'elle n'avait pas le choix. Et tout simplement, voilà, il va coucher avec la servante de sa femme, hein. On sait que c'était un truc assez horrible, hein, parce que la dame, en gros, elle se faisait violer, mais la maîtresse lui tenait la main, comme ça, elle pouvait dire, c'est comme si c'était le mien, quoi. Hein. Donc, voilà, l'Ancien Testament, c'est charmant, hein. Rien de nouveau sous le soleil. Et il y a un fils qui naît, Ismaël. Génial. Ce fils, il naît, il grandit et il arrive jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est quand même, ça fait long. Et puis Abraham, il est tout content. Voilà, en fait, c'était ça que Dieu voulait dire. C'est plus mon petit neveu, c'est mon fils. Oui, c'est pas le fils de ma femme, mais quand même, c'est sa servante. Et puis, c'est mon fils. Et Dieu revient le voir. Abraham, tu vas avoir un fils. Et là, c'est dans Genèse 17. Et puis, il dit, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face. » Et l'ange dit, « Non, tu vas avoir un fils. » Et Dieu dit d'Abraham, « Tu ne me donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, je lui donnerai d'elle un fils, et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, verset 17, de Genèse 17, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de presque 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle ? Et Abraham dit à Dieu, ô qu'Ismaël vive devant ta face. Donc cet homme qui ne douta point par la foi, rien du tout, qui était le père de tous les croyants, voilà son parcours. Il a, lui, trouvé une solution avec ce qui existait à l'époque. Et puis, il demande à Dieu de la valider. Écoute, ça me va très bien. Maintenant, j'ai un fils, c'est Ismaël, il a grandi avec moi. C'est bon, accepte ça. Et puis Dieu dit non. Ismaël, oui, il va devenir le père de grandes nations, je vais le bénir, etc., etc. Mais ce que je t'ai dit, ça va s'accomplir. Et puis, effectivement, une année après, Sarah est enceinte et Isaac naît. Et puis, ça continue. Et je trouvais ça intéressant, et c'est pour ça que je ne vais pas vous faire un grand dessin ce matin, mais quand même, c'est l'image qui m'est venue. Sur le chemin d'Abraham, Abraham, il part d'ici, et puis la naissance d'Isaac, elle est ici, quoi. Et puis, la façon dont l'Épître aux Romains nous raconte ça, c'est quelque chose comme ça. Boop, voilà le chemin d'Abraham. Il ne douta pas par incrédulité, il a cru, il a marché et il a eu son fils. Sauf que nous, quand on va lire la Genèse, la vraie vie qu'il a eue, lui, sa femme, sa servante et les voisins, on va dire que ça fait... voilà. Chaque fois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, pour qu'on comprenne. Voilà. Mais le résumé de ce qui se passait, c'est ça. J'aurais dû utiliser deux couleurs pour que ce soit plus clair. Quand Dieu raconte l'histoire par Paul, c'est ça. Voilà. Départ, arrivée. Mais dans la réalité, il s'est passé tout le reste. Et je trouvais ça encourageant parce que c'est vrai que quand je regarde ma vie, c'est plutôt ça. Sauf que ce n'est pas aussi régulier. Ça descend plus bas. Mais on est en route. Il a été dit plusieurs fois ce matin dans les chants, dans ce que Benoît a partagé, mais aussi dans ce que Ami nous a introduit au début avec le dessin de ce tapis. Voilà, il y a un plan pour nous, on fait partie de quelque chose, on a une place qui est la nôtre et que c'est la nôtre. Et on doit avancer là-dedans et au milieu de tout ça, on doit espérer contre toute espérance. En fait, c'est un petit peu comme on dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Quand vous lisez les livres officiels d'histoire, ça s'est passé comme ça, ils sont arrivés, ils ont fait ça, ils ont gagné, et puis tout était bien et tout le monde était content. Puis vous allez demander aux gens qui ont vécu le truc, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais voilà, les vainqueurs écrivent l'histoire. Alors c'est un exemple négatif, mais en fait c'est ce que Dieu fait avec nos vies. C'est lui qui est vainqueur dans nos vies et c'est lui qui écrit l'histoire. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, on peut entendre parler de Lot le juste qui torturait son âme et qui finalement... Lot le juste, le gars, il convoite tellement les biens matériels, la facilité qui s'installe dans une ville complètement dépravée, quand finalement on veut violer ses invités à la place, il leur donne ses propres filles à être violées pour pas que... C'est le mec le plus tordu du monde. Il figure dans une grotte à coucher avec ses filles pour avoir une postérité. Enfin, c'est une histoire. Même Zola, il n'a pas imaginé un truc aussi sordide dans ses romans les plus noirs. Et le Nouveau Testament nous dit l'autre, le juste. Hein ? Ben voilà. Il a été mis aussi au bénéfice de tout ça. Et puis, ben, il faut croire que, voilà, à la fin, il est quand même arrivé là, hein, même si. Mais voilà. Et ben, c'est un peu. C'est pareil pour nous, mais c'est aussi pareil pour l'histoire, hein, la grande histoire. Nous, on voit ce qui se passe et on se dit oulala, oulala, oulala. Puis on a raison de se dire oulala. Hein, parce que quand on y est dedans et qu'on la vit, c'est pas simple. Et puis, il y a toutes ces injustices. Moi, c'est vrai, quand je lis la Genèse aujourd'hui, alors avec mes lunettes d'aujourd'hui, je ne parle pas de celles-là, de lunettes, hein, mais les lunettes culturelles d'aujourd'hui, mais je dis, mais c'est abominable ce qu'on a fait à Agar, quoi. Parce qu'en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'après, à un moment, d'un coup, Sarah, elle est jalouse, et elle la chasse dans le désert pour qu'elle meure, quoi. Et si un ange n'était pas intervenu, elle serait morte de soif dans le désert, elle et son fils. Mais c'est une horreur, elle n'a rien demandé, elle se fait violer, après on la chasse dans le désert pour qu'elle meure, mais c'est quoi cette... Ben je ne sais pas, je n'ai pas trop d'explications, mais un chanteur qui n'était déjà pas jeune quand j'étais enfant, chanteur chrétien, il écrivait sur la vie de David, et cette phrase m'est toujours restée toute ma vie, « Dieu écrit droit avec des lignes courbes, il nous mène où il veut par des chemins sinueux. » Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et puis, ben, c'est la réalité. Ouais, on va de là à là, mais nous, on aimerait bien, ou il semblerait que, poup, quand Dieu le raconte, c'est comme ça. Mais quand on est dedans, ben, c'est compliqué. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Puis au milieu, on se perd des fois. Hein. Et pourtant, là au milieu, espérant contre toute espérance. Et je suis de plus en plus interpellé par les apparents paradoxes de l'écriture. Et quand on essaie de les faire coïncider, il y a les fusibles qui fondent. Parce que d'un côté, on voit ben, Abraham, et comme tous les gens hein, qui marchent par la foi, ben, c'est Dieu qui fait tout. Parce que si Dieu ne le fait pas, c'est impossible. Et puis, même quand il se trompe, il récupère le truc, il les couvre, il les aide. Parce qu'entre-temps, il y a toutes les histoires où Abraham fait passer sa femme pour sa sœur parce qu'il a peur qu'on l'attaque. Enfin, c'est horrible comme histoire. Et en même temps, ben, donc Dieu fait son chemin. Hein. Et pourtant, Dieu dit, je ne veux rien faire. Hein. Sans vous, si vous n'êtes pas d'accord. Puis comment ça peut marcher ensemble les deux ? Je n'ai pas trouvé. Puis chaque fois que les êtres humains ont voulu inventer des systèmes pour rationaliser ça, bah c'est devenu des systèmes qui amenaient plus la mort que la vie, hein, pour qu'intellectuellement ça colle. Je ne peux pas l'expliquer. Dieu est Dieu, et Dieu fait ce qu'il veut comme il veut, et il ne fait pas ce que je veux comme j'aimerais. Et en même temps, Dieu ne fait rien sans que je sois d'accord avec lui, mais en même temps, c'est lui qui met en moi le vouloir et le faire, et puis on ne sait plus trop où on en est là-dedans. Mais notre réalité, c'est qu'on peut espérer contre toute espérance. Et moi, ça m'a puissamment encouragé. J'ai dit, ok, j'ai plus de raison d'espérer, et je peux quand même espérer. C'est ça, espérer contre toute espérance. C'est un peu comme dans le Nouveau Testament, cet homme qui vient voir Jésus, dans Marc 9, il y a ce récit. Il a un fils qui a des crises, il se jette dans le feu, il se jette dans l'eau pour mourir, etc. Et puis il dit à Dieu, il dit à Jésus, mais si tu peux, fais quelque chose pour lui. Et Jésus a une étrange réponse, parce qu'en général, quelque chose comme ça, Jésus, même sans qu'on lui demande, il vient, il touche, il guérit, quoi. Et là, Jésus lui dit ceci. Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. C'est pas la réponse qu'il attendait, mais c'est pas celle que j'aurais aimé non plus, quoi. Alors le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité, espérant contre toute espérance. Passer du général au spécifique, c'est notre difficulté. Jeudi soir, dans la rencontre qu'on a sur Moutier, le petit groupe là, hein, il y a le sujet qui a été amené. Comment on fait pour passer en tant qu'enfant de Dieu à juste ne pas faire ce qui est mal et faire ce qui est bien, à trouver ce que moi je dois faire. Alors évidemment qu'on élimine ce qui est mal. Est-ce que je dois voler? Est-ce que je dois tuer? Est-ce que je dois tricher? Est-ce que je dois tromper? Est-ce que je dois être malhonnête? Ben non! Mais quand j'ai éliminé le mal, il reste des dizaines de chemins pour faire le bien, entre guillemets. Je ne peux pas tous les prendre, je ne peux pas répondre à toutes les sollicitations, je ne peux pas faire tout ce qui est bien et qui se présente. Et on doit apprendre en tant que fille et fils d'Abraham à vivre de la foi, à vivre dans la foi, à vivre par la foi, c'est-à-dire chercher la volonté de Dieu pour faire ce que nous avons à faire. Si on reprend le tapis de Ami du début, enfin, qui nous a projeté, c'est comment je fais pour être le fil que je dois être dans ce tissage. Alors oui, je pourrais être n'importe quel fil, c'est vrai, mais voilà, moi je suis le bleu avec un peu de blanc là, qui est ici, ou le rouge avec un peu de noir, ou et puis je dois être là. Et ça veut dire que c'est un défi. Et nous, on aime les choses simples et carrées. Voilà. Tu lis ta Bible un quart d'heure le matin, tu vas au culte dimanche matin, tu vas à la réunion de prière, tu donnes ta dîme, tu fais ci, tu fais ça, da, da, da. Et si tu as fait ça, c'est OK, tout est bien. Ben, on va dire que toutes ces grandes choses, oui, c'est les grandes barrières minimum pour ne pas être franchement dans le mal. Mais là, au milieu, il y a des milliers de possibilités. Et c'est laquelle? Et là aussi, c'est un paradoxe parce que il ne me semble pas, à travers les Écritures, et je ne crois pas personnellement, qu'il y ait un seul chemin à trouver. Puis si je ne le trouve pas, j'ai tout raté, ma vie est foutue parce que je suis passé à côté. Non. Et en même temps, il y a un chemin spécifique pour chacun d'entre nous et on doit y marcher dedans. Comment ça va ensemble? Là non plus, j'en sais rien. Mais on a cet exemple d'Abraham. Abraham, qui vivait dans le confort le plus haut qui existait dans son époque, plus ou moins, une ville avec des bibliothèques, avec l'eau courante, avec des rues, avec des maisons en dur, avec un service pour évacuer les poubelles, avec un système politique assez élaboré. Et Dieu lui dit, prends tout ce que tu as et va-t'en. On va où? Tu verras. Ah, je te dirai au fur et à mesure. Ok, ça c'est drôle de plan. On ne pourrait pas un petit peu quand même savoir? Non, vas-y. Et puis quand vous lisez en entier la vie d'Abraham, c'est un nomade, toujours en mouvement. Puis des fois, ça paraît évident que Dieu lui parle, mais souvent il se déplace parce que là, il n'y a plus d'eau pour les troupeaux, on va ailleurs. Là, ils veulent me tuer, je m'en vais là-bas. Là, ils veulent piquer ma femme, alors je vais ailleurs. Et au milieu de tout ça, de temps en temps, il y a l'ange de l'Éternel qui vient, qui lui dit des trucs, mais il ne croit pas vraiment, il fait autre chose. Et bien, c'est compliqué. Et pourtant, après, quand l'histoire est racontée par Dieu le vainqueur, c'est Abraham, le père des croyants, qui ne douta pas par incrédulité, qui a marché par la foi, qui est notre modèle à tous, qui a tout fait tout bien. Presque. Et voilà. Et puis nous, on est dans la même situation. Alors oui, Christ est mort, il est ressuscité. On sait qu'il y a une vie après cette vie. Et puis, ça nous est acquis par la grâce, on le reçoit par la foi. Tout ça, évidemment, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Mais quand il y a tout ça, il n'y a pas tout. On va devoir apprendre cette marche spécifique. Et puis, je trouve magnifique la réponse de ce monsieur à Jésus. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Je te fais confiance, viens au secours de mon manque de confiance. Et ça peut paraître étrange, mais en fait, si on y réfléchit, on est tous comme ça. Est-ce qu'un jour j'ai douté que Dieu existait? Est-ce que Dieu était à l'origine du monde dans lequel on vit? Est-ce qu'un jour j'ai douté que Dieu un jour reviendra, ou en tout cas que je le rejoindrai, qu'il était ressuscité? Jamais, personnellement. Est-ce que j'arrive à croire que dans la situation compliquée où je suis, Dieu a une solution pour moi pour que ça se finisse bien pour tout le monde? J'ai du mal. Je crois, et je suis dans l'incrédulité. Mais j'ai cette confiance en lui que je peux lui demander de m'aider même pour croire ce que je ne crois pas, parce que ma confiance en lui est au-delà de la confiance que j'ai dans le fait qu'il va changer ma situation. C'est incroyable ce truc, c'est magnifique. Espérant contre toute espérance. Et je crois que c'est notre vie. La Bible dit par plusieurs endroits que nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Alors, voyageurs, le temps qui passe nous le rappelle, qu'on en est en vie ou pas. Même si on ne bouge pas et qu'on vit et qu'on est, comme mon grand-papa qui était tellement fier d'avoir passé toute sa vie dans son village sans jamais avoir été dans le village à côté, où il disait que ces étrangers-là, on ne comprendrait pas la langue qu'ils parlaient. Hein, à 8 km du sien, mais il savait quand même qu'il était voyageur. Pourquoi? Parce qu'il a eu 10 ans et 20 ans et 30 ans et 40 ans et 60 ans et puis il a quitté cette terre. Hein. Mais nous sommes aussi étrangers, pas juste voyageurs. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde et nous sommes appelés à vivre autrement. J'ai un petit peu de retard parce que j'ai du mal à la terminer, mais je suis en train de travailler sur la pensée du moi. Et mon point de départ, c'était la brutalité du monde dans lequel on vit. Aujourd'hui, les brutes ont plus honte d'être des brutes. Ce qui était le cas avant les valeurs du Christ, enfin, avant l'évangile, avant Christ. Et avant l'humanisme, c'est encore les valeurs de l'évangile sans Dieu, hein, c'est bien. Et maintenant, c'est le retour à la barbarie où ben, je te fais du mal et je le fais parce que je suis plus fort que toi et que je peux le faire. Et la seule façon que je te fasse pas du mal, c'est que tu me montres que tu es plus fort que moi et que tu me fasses plus mal que le mal que je peux te faire. Voilà où c'est comme ça que fonctionne notre. Il a toujours fonctionné comme ça, hein. Mais on faisait semblant. Les méchants voulaient avoir l'air d'être gentils en même temps. Hein. Maintenant, non, c'est la brutalité assumée à tous les rapports, à tous les niveaux, quoi. Et nous, on est là-dedans. Non seulement on est voyageurs, mais en plus, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me sens totalement étranger. Ce n'est pas mon monde. Moi, je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Mais je n'ai pas le choix, j'y suis dedans, je ne peux pas en sortir. Hein. Et donc, c'est compliqué. Et pourtant... Je continue de croire que Dieu est au-dessus de tout ça et que je ne comprends pas pourquoi... Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'histoire actuelle comme celle d'Hérode qui fait un discours où il se prend pour Dieu et puis paf, il tombe raide là. Ah. Hein? Sauf que j'aimerais, mais est-ce que j'aimerais? C'est moi qui pourrais tomber raide. Ouf, j'aimerais moins. Hein? Voilà. Mais... On peut continuer d'avancer comme ça. Et du coup, on voit que, oui, le récit final, hein, comme Dieu le voit, c'est bien, il voit déjà où on va arriver. Mais la foi, ce n'est pas un bloc de granit. Paf ! C'est quelque chose qui est vivant et qui est fait de fibres dans lesquelles il y a de la confiance, du doute, des questions sans réponse. Des incompréhensions, des peurs, et tout ça c'est ensemble dans la réalité du parcours et ça fait un tissu vivant qui se contracte et qui se rétracte, hein, un peu comme un muscle, et c'est la foi. J'ai pas eu l'occasion, mais dans le week-end dernier, donc on avait un invité qui est un théologien de haut niveau, hein, dans son monde. Et puis, à un moment, il commentait le texte quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. » Puis je voulais discuter avec lui, mais je n'ai pas eu l'occasion, pas eu le temps, quoi. Je l'ai rencontré, mais je n'ai pas eu le temps. Parce que pour lui, « J'ai gardé la foi », ça veut dire « J'ai gardé la doctrine pure. » Et je pense que c'est correct. Mais ce n'est pas ce que moi, je comprends de ce verset. « J'ai gardé la foi, hein, » j'ai gardé ma confiance profonde en Dieu par le Christ et ce qu'il a fait pour moi jusqu'au bout. Mais le reste, ça va avec, parce que forcément... Mais quand même, j'ai un peu du mal avec cette idée qu'en fait, garder la foi, c'est juste garder une saine doctrine sans erreur. D'abord, qui je suis pour savoir qu'il n'y a pas d'erreur, hein? Alors oui, sur les grandes choses, c'était d'ailleurs le sujet qui était passionnant, hein? Il y a des choses pour lesquelles on est prêt à mourir dans notre foi, puis d'autres, on les classe en deuxième ou troisième ou cinquième position. Mais moi, je pense que Paul, à quelques jours de se faire couper la tête, il ne pensait pas à son livre de Thiessen sur les grandes doctrines en catégorie. Hein ? Il pensait à « j'ai confié ma vie au Christ, j'ai été saisi par le Christ et je cours pour le saisir, hein, comme il dit aux Philippiens, et toute mon confiance, elle est là. Et tout le reste, je l'ai considéré comme des poubelles. » Ça, c'est la version polie pour le dimanche matin. Ce n'est pas le mot du texte original. Hein ? Des déchets. Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec mes exploits, mais avec sa grâce qui, par la foi, j'ai pu recevoir et accueillir dans ce mystère de « c'est Dieu qui fait en moi et c'est lui qui le fait ». Et je reviens encore à ce verset qui m'accompagne et qui pour moi est justement un de mes antidotes pour continuer d'espérer contre toute espérance. Ésaïe 26, 12. « Éternel, tu nous donnes la paix, et pas n'importe quelle paix, ta paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. » Encore un de ces paradoxes, de ces oxymores. C'est pas possible. Si c'est ce que je fais, c'est pas toi qui l'as fait. Je sais pas comment ça se passe. Mais tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Mais cette situation-là, elle ne peut pas s'expérimenter si je vis ma vie de façon générale. Je suis un bon chrétien, juste généralement, je crois que Dieu existe. Hein ? Non. Je marche avec ses hauts et ses bas, avec mes erreurs, avec mes fautes, avec mes doutes, avec tout ça, mais je marche pour prendre ma place dans le tapis là où je dois la prendre, sur ce chemin que Dieu a préparé pour moi. Et sur ce chemin-là, Seigneur, espérant contre toute espérance, tu me donnes la paix, parce que tout ce que je fais, c'est toi qui l'accomplis pour moi. Et en fait, la réponse de Dieu à la désespérance, ce n'est pas forcément l'exaucement, c'est la paix. Ça fait une grosse différence. Moi, j'aimerais que Dieu résolve mes situations. Vraiment, j'aimerais. Je vois mon ami qui secoue la tête. Oui, je comprends, toi aussi. On aimerait tous qu'il rentre à la maison et on aimerait que ça soit plus. Et on aimerait que cette douleur disparaisse et on aimerait que ce truc-là, il soit plus et qu'il y ait une solution. Et des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas parce qu'on a Hébreux 11 avec tous ceux qui ont fait des exploits, qui ont marché sur l'eau, qui ont fait ci, qui ont fait ça, qui ont amené le feu du ciel. Et puis aussi, dans la même liste des héros de la foi, tous ceux qui sont morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont salué de loin. Hein ? Ah, moi, j'aimerais mieux la première catégorie, là. Non, mais souvent, je suis dans la deuxième. Hein ? Mais, tu nous donnes la paix. Ça, ce n'est pas une option. Je ne vais pas enlever, je ne vais pas résoudre le truc de suite. Je ne vais pas... Ben non, la solution, ce n'est pas Ismaël. Mais moi, j'aurais bien aimé que ce soit Ismaël. C'est plus simple, il est là, je le vois, il est déjà là. Ah, ce n'est pas parfait, mais on peut faire avec. Non, ça sera autre chose. Mais en attendant cette autre chose qui, pour certaines situations, ben on ne les verra pas de nos yeux vivants, hein, tu me donnes la paix. Parce que tout ce que je fais, tout ce que je vis, c'est toi qui le fais pour moi. Et je ne comprends pas comment ça fonctionne. Eh bien, tant pis. Je vais accepter de vivre avec ça. Ça ne me rendra pas fou. Ça me fera moins de mal que de vouloir à tout prix expliquer pourquoi, parce que... je ne sais pas. Mais je veux finir ma vie comme Paul en disant « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la confiance en toi, même si tu m'as beaucoup déçu. Hein ? Je crois, mais je crois. Oh oui, je crois. Mais alors pourquoi tu ne le fais pas ? Et puis, j'arrive pas à croire que tu vas encore régler ça. Mais j'imagine que dans 30 ans, tout ce qui me paraît horrible aujourd'hui dans ma vie, ça ne me tracassera plus. Hein. Probablement bien avant, mais en tout cas, je mets une date lointaine comme ça pour être sûr. Hein. Ça ne sera plus un souci. Peut-être j'en rirai. Hein. Comme aujourd'hui, quand On connaît tout ça. Hein. Je vois ma fille qui est là et qui râle à l'école. Ben, c'est la fin du monde parce que le prof a fait un petit truc de travers, quoi. Puis on se dit, waouh, hein, si tout va bien, un jour tu auras 40, 50 ans, 60 ans, tu penseras à cette épreuve incroyable, à cette injustice phénoménale que ton prof t'a pas donné exactement la note que tu pensais devoir mériter et tu vas être là. C'était ça mon problème. C'est pas possible, quoi. Hein, voilà. Ben, je pense que ça va être même pire que ça, enfin, pas pire, plus grand que ça, quand on va voir nos vies après être arrivé à ce point, là, depuis l'autre côté, puis on va voir, non mais. Et je m'inquiétais pour ça. Sauf que quand on le sait tous, hein, parce qu'on a eu aussi 10 ans, et 12 ans, et 15 ans, quand on y est dedans, il n'y a pas de plus grande épreuve que celle qu'on traverse. Et ça ne sert à rien de dire aux gens, mais tu verras, quand tu auras mon âge, tu auras d'autres. Non. Quand tu auras ton âge, ça sera pareil. Parce que les gens qui sont plus loin disent la même chose, ils ont dit tous pareil. Hein. Mais là où on en est aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui pour vivre, hein, c'est le seul. Espérant contre toute espérance, je crois et viens au secours de mon incrédulité. Parce que tout ce que nous faisons et vivons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Pas de solution peut-être, mais la paix. Et quand la paix est dans nos cœurs, ça va, on peut continuer. Jusqu'au bout. Et c'est ça le bon combat. J'ai gardé la foi. Et tu m'as gardé dans la paix. C'est... Voilà, c'est tout. Seigneur, merci parce que on peut espérer contre toute espérance. Et ben, on est bien les descendants d'Abraham. On croit et on fait des bêtises les unes derrière les autres. On croit et on veut appliquer nos propres solutions. On croit et on fait du mal autour de nous, et puis des fois on n'est pas courageux, et puis des fois on croit. Mais on veut te faire confiance et on veut recevoir ta paix, Seigneur. On ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ni encore moins après-demain. Mais aujourd'hui, là, maintenant, dans le présent, le seul moment important, le seul qui compte, on veut te dire qu'on te fait confiance. Parce que nous pouvons voir, et ça c'est pas de la quelque chose qu'on proclame dans le vide, c'est juste un fait. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous, et ta paix, elle est là. Et ton amour est en nous. Il est répandu dans nos cœurs par l'esprit que tu nous as donné. Et ça nous permet d'aller bien maintenant. C'est suffisant pour maintenant. Et ouais, on t'accueille. Et je te prie pour tous mes amis qui sont peut-être dans un moment où ils ont même perdu ça. Et ils sont dans la désespérance parce que c'est compliqué. Parce que la solution, on ne la voit pas, parce que la paix est partie. Et que tu puisses nous permettre de vivre par la foi, dans la foi, nous nourrir de la foi, de cette confiance en toi. Pas juste garder des choses vraies, mais cette profonde confiance en toi, Seigneur. Tu as pris notre main, tu la lâcheras jamais, rien pourra nous séparer de toi. Et on veut vivre et mourir avec ça, Seigneur Dieu. Merci de tout notre cœur. Amen.